franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Laetitia Gaillet.
Bonjour Patrick.
Les Syriens d'Alep, d'abord la guerre en images.
Plan large à la une du site de la presse canadienne. Ils sont en bas, le photographe en haut. Hommes, femmes, enfants, ils sont nombreux à l'arrêt. La légende de la photo prise hier affirme qu'ils sont massés à un point de contrôle mis en place par les forces du régime dans le quartier de Messaloun. Ils fuient. Mais d'autres reviennent. Photo cette fois prise sur le site du Monde et de l'agence France Presse. Hommes, femmes, enfants, ce pourraient être les mêmes que ceux montrés dans la presse canadienne, mais eux reviennent dans les quartiers de la ville d'Alep repris par les forces du régime. Ils reviennent, mais pourquoi? Quelle ville? Les bâtiments sont éventrés par les bombardements. Alep est un champ de ruines. Quelques heures après l'annonce de la Russie d'un arrêt des raids aériens et des tirs d'artillerie, le correspondant de l'AFP à Alep Est l'affirme, c'est plus calme. Alep qui tombe comme un fait acquis, Moscou prépare déjà l'après. Dans la matinale du Monde, Isabelle Mandro raconte « Des unités spéciales tchétchènes ont été envoyées en Syrie pour accomplir une mission de police militaire. » Le ministère russe de la Défense en fait la publicité hier en diffusant une vidéo sur Internet. On ne sait pas combien ils sont, mais on sait qu'ils sont sunnites, ce qui facilitera, dit-on, les relations avec la population locale. La sécurité n'est pas la seule raison de l'envoi de ces troupes. C'est un message aussi adressé aux Occidentaux. Récemment, une autre vidéo montrait ce qu'était devenu Grozny depuis la fin des bombardements russes. La ville a été reconstruite, elle est paisible, dit-on, moderne et prospère. Ne serait-ce pas ce que nous cherchons, disait le message, la guerre des images.
Mossoul, l'autre guerre en images.
Photo cette fois de Patrick Chauvel, photographe, écrivain, réalisateur de documentaires dans VSD. Mossoul, en Irak. Il paraît que le groupe État islamique recule, écrit Patrick Chauvel. J'ai eu envie d'aller voir pour vérifier. Alors Patrick Chauvel est parti avec son fils de 33 ans. Mossoul, où des ombres fantomatiques errent dans les ruines. Ce sont des familles qui fuient, elles aussi, les combats. Les rues, enfin ce qu'il en reste, sont jonchées de cartouches. Les soldats des forces spéciales irakiennes avancent, armés, et puis elles reculent quand des voitures piégées explosent. Dans la nuit, ils entendent des murmures. « C'est Daesh », dit un soldat. « Ils s'appellent, ils vont nous attaquer, ils disent qu'on va tous mourir ». Réplique immédiate, écrit Patrick Chauvel, mortier, lance-roquettes, mitrailleuses, lourdes, fusils d'assaut, tout y passe, 45 minutes d'enfer, et puis 6 obus tirés sur le bâtiment détenu par les terroristes, et le calme qui revient.
À voir aussi dans la presse ce matin, la pollution en images.
Le ciel de Paris voilé dans l'Opinion et à la une de Libération, ces photos ont du mal à surprendre tant elles donnent l'impression d'une habitude. D'ailleurs, Libé, un brin caustique, le dit à sa une ce matin, demain, on s'arrête de respirer. Car oui, l'air n'est pas respirable. Mais qu'on se le dise, la pollution tue autant que l'alcool, relève la croix. Boire ou conduire, ça revient donc quasiment au même. Il n'empêche, il faut protéger les plus fragiles. Car certes, la pollution ne tue pas directement une personne, elle ne tue pas uniquement non plus des vieillards chancelants en fin de vie, explique le pneumologue Gilles Dixot à La Croix. Elle peut aussi entraîner le lent développement de maladies respiratoires ou des cancers qui un jour provoqueront le décès. Quoi faire alors? Se calfeutrer chez soi ne sert souvent à rien, affirme un autre pneumologue à Libération, Jean-Philippe Santoni. Le manque d'aération est une autre forme de pollution dangereuse. Il faut donc aérer son appartement, y compris en période de pic de pollution. Préférez quand même, dit-il, tôt le matin. N'arrêtez pas le sport, mais préférez la marche. Les masques sont-ils utiles? Non, dit-il, sauf ceux à clapet ou à filtre de carbone. Le meilleur des masques, selon ce pneumologue, c'est encore le nez, car il dispose d'un filtre naturel.
À lire également dans la presse ce matin, deux affaires de santé publique.
Avec tout d'abord l'enquête du Monde sur le papillomavirus, des médecins danois accusent l'Agence européenne des médicaments d'avoir biaisé une expertise sur les vaccins contre le cancer du col de l'utérus. Cette fois, écrit Stéphane Foucard, ce ne sont pas des associations de malades qui se plaignent, mais des institutions médicale. Et elles accusent l'Agence européenne du médicament d'incurie. Elle n'a pas tenu compte de l'alerte donnée par des médecins qui suspectent des effets indésirables, rares certes, mais graves. Des jeunes filles qui souffrent de fatigue chronique, de vertiges, de douleurs musculaires, de nausées, des effets qui peuvent être très invalidant. L'autre affaire est révélée par Le Parisien aujourd'hui en France. 120 000 femmes en France sont sous surveillance. L'implant contraceptif Essure de Bayer suscite des interrogations, des effets secondaires violents. Marielle raconte avoir eu des maux de ventre, des palpitations cardiaques, jusqu'à se réveiller un matin complètement sourde. Les premières plaintes vont être déposées aujourd'hui. Un mot également de la santé de la Corée du Sud. Le Parlement sud-coréen vient de voter la destitution de la présidente Park. On lira dans La Croix ce matin le mai 60. 68 de la jeunesse coréenne, fer de lance de l'opposition, les étudiants rejettent aujourd'hui une culture fondée sur l'obéissance. Incroyable réveil pour une génération qui a une volonté farouche de se libérer d'anciens carcans. Une étudiante lâche, depuis un mois, nous n'avons plus peur de manifester, de crier et de protester. La jeunesse sud-coréenne ne se laisse plus manipuler par les discours officiels. Visiblement, elle a obtenu gain de cause ce matin.
L'actualité de la presse ce matin est aussi politique.
On parlait de photos tout à l'heure. Eh bien, il faut voir les portraits. Portrait de Jérôme Cahuzac, le regard défait ailleurs à la une du Figaro après sa condamnation hier. Tête basse, encadrée par des policiers à la une de l'Humanité. Il faut regarder aussi le portrait de Michel Alliot-Marie dans 20 minutes. Le visage souriant, mame, candidate à son tour à la présidentielle. On ne sait pas encore comment, mais elle veut apporter, je cite, quelque chose au pays, une vision pour renouer avec un esprit de conquête. Il faut aussi regarder celui de Vincent Peillon, page 4 du Parisien aujourd'hui en France. Mais qui donc lui a demandé de se présenter à la primaire socialiste ? Julien Drey, paraît-il. Julien Drey, surnommé le Baron Noir, quand Vincent Peillon, lui, est surnommé le Serpent par François Hollande. Il parle bien, il est bien coiffé, dit un ténor socialiste. Un Hollandais historique soupire, on est chez les fous. Il faut aussi regarder le portrait de Jean Lassalle dans Sud-Ouest, lui aussi candidat à la présidentielle, menton relevé, le regard fier, mais candidat sans le sou. Pas question de faire un emprunt, j'ai déjà, dit-il, le prêt des législatives et celui que j'ai contracté pendant mon tour de France à pied. Un candidat aussi sans aura, on ne m'invite même plus à la tribune d'honneur pour les matchs de la section paloise. Mais il y croit, Jean Lassalle, je n'ai jamais perdu une élection et personne ne sait ce qu'il va se passer en 2017. J'ai plus de chances d'être élu en étant candidat. La Palice n'aurait pas mieux dit.
Merci à vous, Laetitia Gaillet, pour la revue de presse. Bonjour François Morel.
Bonjour Patrick Cohen.
Comment allez-vous? Oh, le ton est grave.
Très bien.
Oui. Qu'allez-vous de...
Un témoignage particulièrement bouleversant.
Tout à l'heure, ouais. À 9h05.
Nous parlerons trompette.
Ah bah, vous ne croyez pas si bien dire. Vous tombez bien. Nous avons Ibrahim Malou, vous savez-vous?
Oui, c'est un peu pour ça.
Comme invité ce matin, on va le retrouver dans une minute.
Moi, je rebondis.
À tout de suite.